ça fait quelques semaines qu'on parle du Saint-Esprit. C'est un message qui brûle dans notre église en ce moment. Et ce thème qui revient dans mon cœur. Et ce soir, j'aimerais parler de la prière dans le Saint-Esprit. Mais avant de faire cela, j'aimerais que vous remarquiez quelques points. Premièrement, tout ce qu'on a vu se passer ici dans notre ministère au fil du temps, dans les derniers 21 mois, le Seigneur a vraiment mis ensemble par le Saint-Esprit une super équipe de gens qui sont les dirigeants ici et aussi les gens qui sont sur l'équipe et les volontaires. Un groupe de gens très étendu, peut-être 150, 200 personnes qui sont très actives dans ce ministère ici. Et pendant la semaine, notre parking a toujours des voitures dessus. Soit elles marchent, soit elles sont cassées. Mais ce n'est pas inhabituel d'arriver le matin tôt et de partir le soir à 11h. Et à travers toutes ces heures, de voir des voitures le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. 1600 à 1900 qui sont ici sur cette place. Et on ajoute à tout ça nos cultes. Ensuite, on voit comment l'école biblique a un ministère particulier, notre vision pour l'école biblique. On est vraiment intéressé à réduire le taux du prix pour l'école biblique. On prie pour que Dieu envoie des gens ici à l'école biblique. Parce que c'est une école biblique de Saint-Esprit avec la parole de Dieu prêchée qui vient de son cœur et de sa bouche dans Matthieu 4:4. Notre ministère est tenu par un groupe de gens qui ne sont même pas ici à Baltimore, mais Pastor Morrison, Stenbaus, qui Pastor Weisskopf à Chicago, les serviteurs de tous les côtés, de tous les degrés, de toutes les couleurs, de tous les ministères, de toutes les fois. On a vu cela se passer sur beaucoup d'années alors que Dieu a utilisé notre pasteur pour élever et cultiver des dons dans les certaines personnes. On connaît un arbre par ses fruits et on ne serait pas dans le monde entier avec des disciples de qualité, des disciples qui tiennent sur leurs propres pieds et qui regardent à Jésus-Christ pour entendre de lui, qui prient au Saint-Esprit, qui marchent par la foi et qui voient ces manifestations incroyables de la grâce de Dieu et de son œuvre, et aussi d'une manière organisationnelle des propriétés, des terrains, des écoles, des ministères qui arrivent en résultat de cette œuvre spirituelle. Lorsqu'on lit dans Actes 2, on a l'impression que quand les disciples attendaient à Jérusalem pour la promesse du Père, que vraiment ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Ils auraient pu se regarder l'un à l'autre, comme ça se lit souvent dans les évangiles. Et je trouve ça très caractéristique de nous-mêmes. Ils parlaient entre eux et disaient « Qui est le plus grand ?» Ils l'ont fait à plus d'une fois. Il semblait que ça s'est passé à plusieurs reprises. Lequel entre nous est le plus grand? Mais à Jérusalem, au temps de la Pentecôte, alors qu'ils attendaient, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Pourtant, ils savaient que quelque chose était en train de se passer parce qu'ils ont vu Jésus monter, ils attendaient. Et je pense à Jésus comme quelqu'un qui était là pendant 40 jours. C'est comme l'âge de l'Église où il apparaissait et disparaissait. Et pourtant, il nous encourageait toujours et disait, je pars, mais je vous en enverrai un autre, le Saint-Esprit. Et lui sera avec vous, et il sera comme moi. Il va vous diriger dans toute la vérité. Mais je pense aussi qu'il ne réalisait pas la puissance incroyable. Le vent fort, le feu qui allait descendre sur leur tête comme des langues de feu. C'était quand Dieu a pris le contrôle de l'organe le plus difficile de notre corps, c'est la langue. C'est les langues qui ont divisé les peuples en Genèse, et maintenant à Pentecôte, c'était la langue, le spirituel, langage spirituel qui ont réuni les gens ensemble. Et c'est pour ça que on est tellement nombreux et pourtant on est un. C'est l'œuvre de ce feu. Le feu te prend ton attention. C'est comme si vous endormez à côté d'un feu et tout d'un coup, il y a un bout de bois qui explose, ça fait un grand bruit et il y a un petit bout de flamme qui était tombé sur le tapis à côté de moi. Tout d'un coup, ça a pris feu. Là, je me suis réveillée. Si le feu touche votre corps, vous allez le sentir, vous vous réveillez. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, c'est comme cela que l'on parle du Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit et ce feu enflammé qui est venu vers vous. Et maintenant que ce qu'ils ont parlé, il n'y avait rien sur la terre qui pouvait les toucher. C'était comme ce charbon ardent qui a touché les livres d'Ésaïe. Et je sens que dans le ministère, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre qu'on veut le plus, que l'on désire plus que les choses mondaines, que ce qui est inusuel, inhabituel, quelque chose qui attire mon attention. On réalise que Dieu nous parle et qu'il est ce feu brûlant. Notre Dieu est une flamme brûlante, dans Hébreux 12, 29. Et donc il y a eu ce feu dans Actes 2, 3. Et dans Actes 4, ils ont eu une réunion de prière. Deuxièmement, la sagesse, et Pierre a prêché 8 versets de l'Ancien Testament, comme si tout ce qu'il disait venait de l'Ancien Testament. J'aime aller dans une église où j'entends la parole de Dieu. Sors-les des pages de la Bible, Seigneur, et montre-nous par ton esprit ta nature incroyable, ton œuvre incroyable, qui brûle dans notre cœur, qui aille dans notre esprit, et que les paroles de Dieu rentrent dans notre esprit. Et fasse de nous des gens réveillés parce que c'est de la nourriture pour nous. Vous avez le feu, la sagesse, et troisièmement, la prière. Ça, c'est dans Actes 4. Ils ont une réunion de prière. J'aimerais aussi que vous voyiez dans Romains 8 et que vous suiviez cela avec moi. Au verset 11, Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'ai l'impression que ça nous arrive à nous aussi. Et cet esprit nous vivifie. On commence à croire dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit fortifie nos corps mortels. Il y a beaucoup d'histoires qu'on pourrait dire sur les saints de l'Ancien Testament qui étaient motivés par le Saint-Esprit dans leur corps mortel. Certains étaient persécutés, certains étaient martyrisés. Et alors que ça leur arrivait, ils avaient tout d'un coup cette autorité du Saint-Esprit dans leur corps humain. Et ils donnaient des témoignages de la gloire de Dieu. Et même nous qui servons, et comme vous le faites si fidèlement, je n'arrive même pas à croire le nombre de personnes qui ont aidé à renouveler la salle de culte. Il y a un très bel esprit dans ce lieu de travail. Dieu qui vivifie les corps, même lorsqu'on est fatigué et qu'on va dormir, dans nos cultes, on trouve aussi l'autorité dans nos corps physiques. Et au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il nous faut être conduits par l'Esprit de Dieu et pas par notre chair. J'ai beaucoup aimé l'article sur le coach d'une équipe qu'on a lu dans les journaux. Ces deux coachs, et ça parle de comment ces équipes sont coachées, pas par des petits dictateurs qui hurlent et qui jurent et qui font des menaces, mais ce sont des hommes spirituels. Et ces coachs sont vraiment spirituels. Et ils parlent bien souvent à leurs équipes de versets bibliques et de comment être avoir une victoire et que de gagner ce n'est pas le but du jeu, mais la qualité de ta vie et les efforts et l'œuvre et le travail dans lequel tu mets les efforts. Des hommes spirituels qui sont des leaders pour d'autres hommes par l'Esprit de Dieu, qui dirigent les hommes. Si on est dirigé par l'Esprit de Dieu, on ne vivra pas en train de donner des menaces, des mauvaises paroles, des jurons. Et ces équipes-là sont comme ça parce que leur coach leur apprend. Il y a une spiritualité qui est très pratique dans leur vie. Et c'est comme pareil quand on a un business ou qu'on est un patron. On doit être dirigé par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est très pratique. Regardez au chapitre 8. Ça parle de cette prière. On sait que la nature entière, on voit que tous les changements dans notre planète, les choses qui se passent, c'est comme une personnification de la planète qui soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et qui attend le royaume prochain. Et nous aussi, on soupire au verset 23. Et ce n'est pas seulement la nature, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parfois, on a l'impression d'être fatigué de notre mortalité. Seigneur, j'aimerais être comme une flamme de feu, j'aimerais être comme un ange. J'aimerais avoir. On a une pensée éternelle, mais j'aimerais avoir une pensée qui n'a pas besoin d'être renouvelée. Dans Romains 12, 3. On aimerait avoir un corps immortel, un corps glorieux. Et on l'attend parce qu'on l'a goûté par l'Esprit. Que l'homme n'a pas été fait pour mourir, mais il a été fait pour vivre. Et pas juste pour vivre, mais pour vivre avec un feu et une sagesse. Donc au verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Et au verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide, au verset 26, dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc c'est l'Esprit qui vient à notre aide et qui nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas quelle prière offrir ou comment l'offrir, de laquelle manière l'offrir. Mais l'Esprit lui-même intercède envers nous avec des soupirs inexprimables. Je lis de Charles Spurgeon sur ce phénomène. Il dit que c'est un mystère, que le Saint-Esprit peut opérer sur la pensée humaine beaucoup plus directement et communiquer même dans le silence. Le Saint-Esprit peut être un peu comme quelqu'un qui souffle, qui fait le souffleur pour un acteur. Par exemple, quand il perd la mémoire, quand il doit réciter quelque chose, le souffleur est là pour lui rappeler les paroles. Ou alors, si l'acteur utilise les mauvaises paroles, le souffleur est là pour lui suggérer les bons mots. Ou alors, quand l'acteur ou la personne qui parle perd le fil de sa pensée, le souffleur est là pour l'aider à se rappeler. Et j'aimerais dire que ça représente un peu l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On prie, mais on ne sait pas ce qu'on devrait prier. Parfois, même nos prières sont fausses. Moïse l'a dit, a fait cela dans Deutéronome 3, 25. Il a dit, Seigneur, j'aimerais aller dans le pays. Et le Seigneur, arrête. Le Seigneur lui dit, arrête. Ne me pose plus la question. Mais Moïse dit, mais Seigneur, j'aimerais bien aller dans le pays promis. Et Dieu était en colère avec Moïse et dit, ne me pose plus la question, ne me demande plus. Certaines de nos prières sont difficiles parce qu'on ne sait pas quoi prier. Que même ça, émotionnellement, ça pourrait nous déprimer, nous frustrer. Ou alors on est confus, nos prières sont frustrées. Et quand on essaie de prier, on ne sait même pas quoi prier. Ou alors comment prier. Et donc il y a ce bruit dans notre psychique, dans notre psyché. Et c'est tellement important d'apprendre à être silencieux devant Dieu. Mais de dire, Dieu, ton Saint-Esprit va m'aider. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit doit dire? Et comme ce souffleur ici qui est avec moi et qui pourrait dire, prie au Seigneur de la moisson. Et qu'est-ce qu'on peut prier? Et le verset nous vient à la pensée. Matthieu 9, 36. Afin qu'ils envoient des ouvriers. Donc, le Seigneur, c'est sa prière. Elle dit, vas-y, continue à prier. On dit, Seigneur, cette propriété ici, l'église, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment le faire. On ne sait pas quand le faire. Quel est ton plan? Comment est-ce qu'on peut le faire? Et le Saint-Esprit dit, ça c'est mon cœur. Prie pour cette propriété, pour l'église ici. Seigneur, on te donne notre église, le parking, tous les bâtiments. Chaque mètre carré, tout ce que tu es en train de faire, et cet esprit, l'Esprit de Dieu est quelqu'un qui prie, ou pour un missionnaire, ou pour des finances, ou un business, ou un membre de famille, et c'est cet esprit qui nous dirige. Et quand on entend les paroles, il y a une paix dans notre cœur, et ça c'est la prière, ça c'est la prière. Et peut-être qu'on ne fait pas des listes comme des listes de courses, des prières comme des listes de courses, mais souvent c'est des prières dans le silence qu'on prie devant l'Esprit. Et dans Acte 4, lorsqu'ils étaient persécutés, qu'ils ont prié et qu'ils étaient bouleversés par le Saint-Esprit, ils sont mis à intercéder et ils ont prié par l'Esprit. Et ils étaient silencieux et ensuite ils ont commencé à prier. Et le feu de Dieu qui est en nous, ce feu nous amène dans la prière. Même une heure pouvait passer et on se retrouve à prier. On est focalisé, on est concentré. Et c'est une joie parce que c'est comme si cette autre personne était près de nous à côté qui nous soufflait la prière. et ce sont des prières qu'on a les unes après les autres qui bougent des montagnes. Et des choses se passent qui ne se passaient pas avant. Et si on priait pour les mauvaises choses, et Moïse disait, laisse-moi aller dans le pays promis. Et Dieu dit, non, tu n'iras pas. Et bien sûr, il a continué dans son ministère, mais dans ce domaine-là, il n'a pas grandi. Dieu ne l'a pas utilisé. Donc, de la même manière, on ne sait pas. Mais on a quelqu'un avec nous, c'est une aide. Le deuxième, c'est un avocat. Et le troisième, c'est un père qui aide son fils. Comme s'il avait un arc avec des flèches. Et le garçon veut tirer l'arc, mais il ne peut pas, il n'a pas la flèche. Et ça pourrait être comme la prière aussi. Je voudrais tirer cette flèche, mais je n'y arrive pas. Et Saint-Esprit vient comme un père. Il met ses bras sur l'arc. Et il dit, tire. Avec l'aide du père, il tire jusqu'en bas, jusqu'au fond. Il ne le fait pas, mais c'est le Père qui le fait. Vous et moi, on ne peut pas le faire. Et on ne prie pas avec l'Esprit de Dieu dans nos prières. Et on dit, j'ai jamais prié comme ça auparavant. Mais ça, c'est incroyable. Comment est-ce que ça peut se faire? Oh, Seigneur, merci. Ça, c'est une joie pour moi. Est-ce que je peux retirer notre flèche? Et je sors une autre flèche et j'attends pour que le Père et le Saint-Esprit qui m'aident à tirer cette flèche dans l'Esprit de Dieu qui se fait des soupirs inexprimables. Et ces soupirs, c'est vraiment de moi, mais c'est prompté par l'Esprit de Dieu en nous. Et des soupirs, c'est pas comme on imagine. Des fois, on peut entendre les athlètes qui jouent, qui crient quand ils tirent une balle ou quoi, mais c'est pas comme ça. C'est un son qui sort de nous, c'est un vrai soupir. Ça, c'est pas un soupir acoustique, c'est un soupir qui est de sincérité et de vérité, qui est en nous. Tu es en train d'essayer de tirer cet arc. Il est dit au chapitre 8, on va le lire. Au verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et le Saint-Esprit dit, prie pour ton voisin. Et on dit, non, je ne veux pas prier pour mon voisin, je ne veux pas qu'il soit béni. Je ne peux pas prier pour lui. Et cet esprit dit, tu es en train de m'attrister. Prie pour ton voisin. Je dis, non, je ne prierai pas pour lui. Et c'est là que s'arrête ma vie spirituelle. Peut-être que je vais à l'église, peut-être que je dis gloire à Dieu, je lis ma Bible. Mais l'esprit dit, allez, viens. Pourtant, il y en a qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu comme des fils. J'ai besoin que tu pries pour ton voisin. Et Dieu dit à Job, Job, prie pour tes trois amis qui t'ont donné ces mauvais conseils. Prie pour eux. Et il a prié pour eux. Quand on prie pour les gens, peut-être que naturellement on ne le fait pas, mais on ne veut pas vivre une vie naturelle, on veut vivre une vie spirituelle. Ce ne sont pas nos décisions. Ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas ma personnalité, c'est la volonté du Seigneur. Et nous sommes des serviteurs, on n'a rien à dire. Si ce n'est qu'on est soumis à Dieu, on dit oui Seigneur, je vais prier pour mon voisin, s'il te plaît, bénis-le. Déverse une bénédiction sur eux, s'il te plaît. Bénis sa famille, bouge puissamment envers lui. Et c'est peut-être même ça. Ça va peut-être devenir la chose qui va créer un réveil dans ta vie. Ou qui va chercher quelque chose qui, sans quoi, ne serait jamais touché. Bien souvent, on vient vers le pupitre au fil du temps. Et on se sent d'une manière particulière. Tout d'un coup, l'Esprit met sa main sur l'arc. Et on est très faible. Et là, je tire, tire, tire. Et on dit, Seigneur, il y a quelqu'un qui prie pour nous. Dieu, tu fais ça pour nous. Et on dit ça ici à Baltimore. 100 000%. On sait que ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est les mains. C'est vraiment le souffleur qui est derrière nous. Il est invisible. Il utilise cette parole et nous dit, tiens, dis ceci, dis cela, va dans cette direction. Et ça, c'est le message que j'ai pour toi. Et on le suit, on le suit. Et il est à l'œuvre, il fait cette grande œuvre. Et on est des témoins de cela. Il y a une œuvre de Dieu qui n'est pas de la chair des hommes. C'est une œuvre de Dieu et c'est par sa grâce. Ensuite, il dit ici au verset 26. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je me demande si on pourrait se lever tôt le matin, parfois, et se mettre à genoux, et se réveiller même dans le froid, et se réchauffer comme ça, et aller prier et dire, Seigneur, donne-moi des paroles, je t'adore, donne-moi des paroles pour la journée, que ton Esprit prie à travers moi. Fait un travail en moi parce que c'est Dieu qui il veut bien, c'est Dieu qui veut, il veut faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et au verset 27, c'est celui qui cherche le cœur sait quelle est la pensée de l'Esprit. Renouvelle dans notre âme l'âme de notre esprit. On apprend la pensée de notre esprit. C'est lui qui intercède pour les saints. Je crois que si on prie pour les uns, pour les autres, on va voir des choses incroyables. Je crois qu'on les voit déjà. On le voit maintenant avec notre nouvelle salle de Dieu. Et d'ailleurs, et priez, et soyez dirigés comme Dieu vous dirige. Vraiment, je sais que notre salle de culte va être trop petite pour le dimanche matin à cause de toutes les nouvelles personnes qui viennent et de ce qui se passe. Donc, on a plusieurs cultes le dimanche matin. Et le premier matin qui est de grande qualité, on veut que la musique, la prédication, tout soit de grande qualité. Et donc, de cette manière, on peut faire la place pour le deuxième culte pour ceux qui veulent venir après. Et d'être dirigé, bien sûr, ce que je viens de mentionner, c'est un petit détail, mais en gros, laissez Dieu vous diriger. Quelqu'un pourrait dire, quelle est ta vie? Il dit, oh, moi je marche par la foi avec par Dieu, par la volonté de Dieu dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Oh, je sers. J'ai un travail, je paye mes ce que je dois payer, je suis disponible à Dieu. Je ne sais pas vraiment tout parce que c'est un mystère, mais je sens que sa main est sur moi. Je l'entends qui me donne les mots et les paroles dont j'ai besoin pour organiser et gérer ma vie. Je sens l'amour dans ma vie pour mes frères et sœurs. Et j'aime la sainteté et la piété et de ne pas être impie. J'aime vivre avec lui, marcher avec lui et vivre dans cet appel parce qu'il nous appelle à l'action. Et c'est le dernier point que je veux dire. Je pense qu'à la fin, il y aura une action. Premièrement, il y a le feu, la sagesse, la prière. Et ensuite, il y a une action. Et ça va arriver. Ce verre d'eau dans le nom d'un disciple. Elle a un coup de fil à quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est de taper à la porte de quelqu'un. Une lettre. Une prière dans une salle de prière. C'est de donner de l'argent, d'aider quelqu'un d'être disponible. Et ça arrive tout le temps ici. On est tellement reconnaissant pour cela. J'aime ce que le Seigneur fait je réalise que autant notre salle de culte sera belle, ça ne touche même pas la réalité spirituelle dans laquelle on vit ici ce soir, alors qu'on a une communion avec cette grande marche par la foi. C'est tellement incroyable. Et quel est votre futur? Je ne sais pas, mais je sais que Dieu a un plan pour vous. Comment est-ce que Dieu va vous utiliser? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il vous utilise maintenant, ici et maintenant, dans ce moment éternel, avec une valeur éternelle. Et notre vie est incalculable. On ne peut pas calculer la valeur de notre vie. À chaque fois qu'on obéit et qu'on suit et qu'on prend cette croix, il y a une capacité qui est rajoutée pour que Dieu se révèle en nous et à travers nous. Elle est tellement paisible, tellement pleine de joie. Et divine, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, qui sont bien au-delà, même de notre imagination. Et un jour, on va monter, on ira vers lui. Et quand ce jour-là arrive, on dira, « Oh Seigneur, c'est toi qui l'as fait. C'était incroyable. » Et le Seigneur dira, « Regarde ceci, regarde cela. » Et on dit, « Seigneur, tu sais combien mes bras étaient faibles quand j'avais ce grand arc de fer. Et tu as vu mes petites mains qui tenaient cet arc par la foi. Et j'ai senti la puissance de tes mains. Et Seigneur, tu sais que chacun d'entre nous, on n'a jamais fait. On n'a rien fait nous, de nous-mêmes. Mais c'est ton esprit, ta puissance. Quand tu as dit, tu enverras un autre. Et tu l'as fait, et on a reçu le fruit de cela. La joie, la paix qui en découlait. On est tellement reconnaissant. Et tu as glorifié ton Père Céleste en amenant beaucoup de fruits. Et donc, par cela, on glorifie notre Père Céleste. Merci, Seigneur.